Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour, bienvenue dans Radio Foot International, dans cette émission consacrée comme chaque jour sur RFI en fin d'après-midi au football. Et nous commencerons aujourd'hui par la course au Ballon d'Or. Elle est lancée depuis hier car la liste des possibles lauréats a été publiée par France Football. 30 footballeurs dont 6 Français champions du monde ou encore 8 Madrilènes champions d'Europe. Mais aussi toujours Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont remporté à eux deux les 10 derniers trophées dorés. Le vainqueur 2018 serait-il quelqu'un d'autre? Leur domination sera sans partage. Sera-t-elle en train de s'achever? Cristiano Ronaldo, toujours dans la tourmente d'accusations de viol. Aujourd'hui, la presse italienne s'en fait très largement l'écho alors que le joueur est au Portugal avec ses avocats. La Juventus de Turin peut-elle être mise en danger par sa superstar? Enfin, sans Cristiano Ronaldo, eh bien, le Real Madrid est à la peine en Liga. 2 défaites en une semaine. Pas un seul but depuis 4 matchs. Et déjà, le successeur de Zidane, Julen Lopetegui, cible de violentes critiques. Le Barça marque aussi le pas. Et résultat, le FC Séville est en première place de ce championnat espagnol. Pour évoquer ces sujets, eh bien, nous avons un confrère de France Football, puisque désormais France Football est le seul à la manœuvre pour ce Ballon d'Or.
Il y a intérêt.
Bonjour Jean-Marie Lanoë. Vous avez récupéré votre bébé depuis 2 ans déjà,
ouais.
C'est ça?
RFI, c'est toujours le swag.
Oui, bien sûr. Dominique Sévrac, bonjour.
Bonjour à tous.
Notre confrère du Parisien qui connaît bien certains des joueurs qui sont sur cette liste des 30. Et puis Philippe Doucet, qui en connaît aussi, j'en suis sûre.
Quelques-uns, Madame Annie.
Notamment deux, mais on y viendra. Les deux Africains. Et puis Olivier Pron, il connaît tout le monde. Bonjour Olivier.
Je connais tout le monde, mais je ne vote pas. D'ailleurs, je doute que quelqu'un autour de cette table vote pour ce Ballon d'Or et je le regrette.
Eh bien,
pas
oui. Moi.
Jean-Marie Lanoë, indirectement.
Ah, j'ai le bras long.
À travers son patron de rédaction.
Radio Foot, c'est parti.
Ladies and gentlemen, children of all ages, world famous parade of the nation.
Oh, magical magic! Cristiano Ronaldo on the score sheet.
Griezmann to shoot, and it's gone in!
Benzema, le tir de Benzema!
De Bruyne,
Hazard!
Oh la merveille! Oh le génie! Le joueur exceptionnel qui change les destins des rencontres!
L'année 2018, la saison, est-elle une année charnière dans l'histoire du Ballon d'Or? Celle d'une nouvelle ère où le mano à mano entre deux géants que sont Cristiano Ronaldo, vainqueur depuis 2008 de 5 trophées, et Lionel Messi, vainqueur lui aussi de 5 trophées, mais depuis 2009, sont-ils en train, peut-être, qui sait, de passer la main? C'est la question qu'on peut se poser. Dominique, est-ce que vous croyez qu'on est peut-être en train d'assister à un changement dans cette alternance qui peut-être devenait aussi un peu trop, je dirais pas fatigante, mais évidente?
Prévisible.
C'est plus une lassitude du public que des 192 votants, 93?
Ouais, c'est ça.
C'est combien?
193.
170, pourtant j'ai lu.
Non, 193. Mais c'est un chiffre à prendre avec des pincettes parce que quelquefois il y en a quand même un ou deux qui dorment et qui ne votent pas.
Non.
Qui ne savent pas ce que c'est que le foot. Ça se voit.
Je ne les désignerai
pas. Donc voilà, c'est peut-être plus l'opinion publique qu'en a marre. Bon, après, est-ce que les deux génies ont été influents cette année? Alors oui, pour le championnat d'Espagne et la Ligue des Champions, mais pas pour la Coupe du Monde, par exemple, où ils ont été un peu discrets, sauf Cristiano Ronaldo lors du premier match, il a été exceptionnel contre l'Espagne. C'est compliqué. Modric paraît aujourd'hui favori, mais depuis que la saison a recommencé, il est très en deçà de ses possibilités. Alors, ça semble plus ouvert que les années précédentes.
Philippe, est-ce que ça serait plus ouvert que les années précédentes?
Oui, j'en suis persuadé. Je pense qu'on va arriver à la fin, ce qui me semble pas tout à fait illogique. Je veux dire, Nadal, Federer ont dominé pendant des années, puis à un moment quand même, il y a eu un Djokovic pour être numéro un mondial. C'est un peu normal, ils ont 31 et 34 ans respectivement.
C'est même s'il reste normal. Encore...
Il reste exceptionnel. Moi, j'étais ce week-end à Valence, voir Messi reste un spectacle, mais c'est un génie. C'est un génie, c'est toujours pour moi le joueur le plus exceptionnel du football mondial. Il n'empêche que si on prend l'année stricto sensu, compte tenu des critères qu'applique France Football, logiquement, un Messi, par exemple, qui reste fantastique, ne devrait pas être Ballon d'Or. Et je pense que Ronaldo, de même, ne devrait pas être Ballon d'Or.
On rappelle juste que c'est cette année. Ça ne veut pas dire que leur règne ou leur cycle est terminé. C'est-à-dire
ils sont
juste
toujours.
Que ils seront peut-être cette pas, mais alternance. Rien ne les empêchera c'est de mettre
cette prochaine. Alternance, en tout cas. Justement, Jean-Marie Lanoë, rappelez-nous un peu ce système de vote. On disait 193 votants. C'est un par pays, un par fédération, ouais, théoriquement. Oui. Et quand est-ce que qui est ce jury d'abord et quand vote-t-il ?
Eh bien, ce sont les correspondants de France Football. Et donc, on est revenu à ce système en 2016 qui redonne, si on peut dire, du parfum au palmarès de la saison. C'est-à-dire qu'avant, quand la FIFA s'en est mêlée, les entraîneurs votaient, les capitaines votaient et les correspondants votaient. Mais là, c'était dilué en trois collèges.
Mmh.
Et les joueurs et les entraîneurs avaient vraiment tendance à toujours voter pour le gars le plus talentueux. Alors les gars les plus talentueux, on les connaît, Philippe en a reparlé, Messi, je veux dire, a peut-être encore deux ou trois années devant lui à être le plus talentueux. C'est hallucinant de le voir jouer. En revanche, on retombe là sur un ancien règlement de France Foot qui précédait l'intervention de la FIFA, quand France Foot était seul aux manettes et il l'est redevenu. Les correspondants votaient pour l'année et les correspondants étaient extrêmement sensibles à la saison effectuée. C'est comme ça qu'on a eu des Nedved élus, qu'on a eu des Cannavaro élus, parce que effectivement, si c'était pas les joueurs les plus doués de leur génération, ça avait été les joueurs number one
cette année-là
de la saison.
Et c'est peut-être ce qui donnait aussi le brio à ce prix qui fait rêver toujours les footballeurs, même s'il y en a d'autres. On a The Best avec la FIFA, on en a avec l'UEFA, mais on a l'impression que celui-là reste quand même...
Il est historique, celui-là.
Oui, certes.
Il est historique.
Ouais,
c'est... Donc,
il
n'y a
aussi,
que des grands noms. Il n'a récompensé que des footballeurs d'exception. Donc forcément, quand on est footballeur, on rêve que d'une chose, c'est d'être comparé et d'être dans la même galerie, dans la même colonne, dans le même palmarès que tous ces grands noms.
C'est un marqueur.
J'aime bien te l'entendre dire, mais c'est vrai que parfois, un joueur a été élu et ça a fait vraiment du vinaigre parce que pas mal de gens ne pensaient pas les retrouver là.
Oui,
oui, mais c'est aussi le charme du trophée tel qu'il est revenu à France Football.
Quand vote-t-il alors, Jean-Marie?
Ouf, alors là,
du 9 octobre au 9 novembre.
Voilà, merci.
Donc le vote est ouvert aujourd'hui, il se clôt le 9 novembre.
Voilà. Et si vous voulez.
Ils ont déjà voté pour les 30 ou c'est
non,
le
non,
journal?
Non, non, les 30, c'est le journal.
Ah, c'est le journal qui
propose.
C'est
le journal qui établit la liste. 8 journalistes.
C'est une élection à deux tours.
8 journalistes de France Football se réunissent, font chacun leur liste des 30 et...
J'en étais pas. Je vais gueuler.
Et donc, ils ont tout le mois d'octobre pour voter, en gros, c'est
oui,
ça.
Oui, et traditionnellement, je me souviens du temps où France Foot était seul aux manettes du Ballon d'Or. Effectivement, les deux derniers mois étaient hyper importants aux yeux des votants journalistes. C'est-à-dire que Griezmann qui marque l'autre jour, Messi qui redevient Messi, Ronaldo qui pose son empreinte sur le dernier match.
Mbappé
qui met 4 buts. Tout ça impressionne favorablement les jurés, surtout... aujourd'hui, qui a vraiment une interrogation sur le vainqueur final, quoi.
Ouais, parce que vous aussi, vous pensez que c'est peut-être.
Ah oui, je pense que c'est très dilué.
Une alternance.
Ouais, je pense que c'est très dilué. On va reparler des Français. Mais...
Oui, justement. Alors, en tout cas, la réponse sera donnée le lundi 3 décembre prochain.
Il n'y a plus les trois. On ne donne plus les trois derniers.
Ah,
avant, il y avait une étape.
Très bien.
Avant, il y avait une étape intermédiaire.
Bien,
on ne les donne plus.
Mm-hmm.
Voilà.
C'est très bien.
Alors, cette liste. Venons-en à cette liste. Elle comprend. Donc 30 footballeurs, on ne va pas tous les énumérer, mais on va peut-être s'attacher à certains groupes. Et évidemment, 7 Français, ça faisait sûrement très longtemps qu'il n'y en avait pas eu autant sur la liste de France Football. 6 sont champions du monde, il y a Karim Benzema en plus qui lui est champion d'Europe. Est-ce que finalement, dans cette liste, le titre de champion du monde est ce qui compte le plus, Dominique?
Ben normalement oui, si le palmarès est pris en compte, c'est le titre suprême. Après, le problème de l'équipe de France, c'est qu'ils sont trois favoris, Griezmann, Mbappé et Varane, parce que Varane a aussi gagné la Ligue des Champions, Griezmann a gagné la Ligue Europa, Mbappé n'a rien gagné, mais tout le monde sent que c'est déjà un des meilleurs joueurs du monde.
La Coupe du Monde quand même.
Et puis voilà, c'est le, il bascule, il fait basculer France
Argentine. Ah bon,
il a joué. Oui, il fait basculer France Argentine. Il marque en finale. Donc voilà, mais le problème c'est que moi je serais juré, j'aurais du mal à me départager entre les trois. Par
alors
exemple.
Justement, c'est ce qu'on se disait. Est-ce qu'il n'y a pas non plus une entre guillemets cuvée exceptionnelle cette année, c'est-à-dire non seulement alors les éternels Cristiano et Messi, mais aussi Eden Hazard, Neymar, Salah, Mbappé et Griezmann, aussi Ramos, beaucoup de très bons joueurs cette fois. Philippe, si vous deviez voter,
ça c'est le volet positif, ce serait de dire ça. C'est-à-dire qu'effectivement, cette année, il y a eu à la fois, il y a un côté très ouvert, il y a eu la révélation Mbappé, effectivement, vraiment au plus haut niveau. Pour ceux qui éventuellement doutaient, ça a été jusqu'au bout. Il y a eu un Hazard qui a passé un cap. Il y a eu plein de choses qui
le
ont
trio
fait,
de
qui font que sans doute Salah qui a explosé au plus haut niveau, Mané, etc. Donc effectivement, il y a peut-être ça, c'est la version positive. La version un petit peu négative de ça, c'est que je trouve que ce genre de prix contribue de plus en plus à individualiser le football et à rendre tout ça un peu ridicule. C'est-à-dire qu'on a l'impression par moment que si on perd ce week-end et que je ne marque pas ce week-end, on va dire que je ne suis pas bon pour le Ballon d'Or. Et je trouve que ça, c'est le revers négatif.
Ce sont les images à jet continu. N'existait pas il y a 15 ans. Et effectivement, si Cristiano Ronaldo, malgré ses déboires extra-foot,
on y viendra tout à l'heure,
marque beaucoup de buts, on peut imaginer très bien qu'il finisse premier. Après tout, c'est pas impossible.
Dominique, on se dit champion du monde, mais il y en a 6. France Football le dit très bien. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle une déperdition, c'est-à-dire que on va voter pour un champion du monde, mais comme il y en a plusieurs, au lieu que toutes les voix aillent sur Griezmann ou sur Mbappé ou Varane, ça peut aller aussi sur d'autres joueurs français.
C'était passé en Italie en 2006. Le monde entier avait désigné plutôt Cannavaro et les Italiens avaient plutôt fait campagne pour Cannavaro que pour Buffon, qui avait terminé deuxième. Donc c'est pour ça que Cannavaro avait été un peu le lauréat surprise. L'autre écueil, Philippe en a trouvé un au Ballon d'Or, il n'en a pas beaucoup, c'est un prix exceptionnel, c'est un prix mythique, mais c'est qu'il récompense peu de défenseurs, c'est pour ça que Raphaël Varane
et encore moins de gardiens, un seul gardien dans toute l'histoire.
Voilà, donc Raphaël Varane a très peu de chance, Hugo Lloris, N'Golo Kanté...
Sammer et Cannavaro.
Beckenbauer, pardon. Donc
Varane part de plus loin, Lloris aussi, Kanté, il a été exceptionnel, mais il a pas une aura mondiale parce qu'il y a aussi le charisme, la carrière dans les critères du Ballon d'Or.
On sent que certains sont un peu en campagne et Cristiano le faisait au combien.
Ils sont tous en campagne en France, en tout cas Varane, Griezmann et Mbappé sont en campagne.
Oui. Cette équipe de France ces jours-ci, elle est réunie à Clairefontaine puisqu'il y a un match jeudi contre l'Islande. Est-ce que cela peut créer des problèmes dans le groupe? Est-ce que cela peut créer des jalousies? Écoutons le sélectionneur Didier Deschamps, qui a répondu au micro d'Antoine Grenier au sujet de cette question.
Je pense que ça occupe bien le débat médiatique, que ça peut créer par moments des oppositions, mais c'est pas le cas en interne. Mais c'est toujours dans un sport collectif, quand il y a des distinctions individuelles, ça va un peu à l'encontre, mais... voilà, ça fait partie du jeu aussi, mais quand ils sont ici avec moi, il y a un objectif collectif qui passe avant tout et ils le savent bien.
Dominique, vous qui suivez l'équipe de France, est-ce que vous pensez que il peut on disait pendant un moment à la fin de l'été là que Griezmann parlait de lui mais parlait pas trop de Mbappé et vice-versa, que évidemment ça les fait rêver eux, est-ce que ça peut avoir une influence négative?
Alors dans le jeu, il y a eu ce match en Allemagne où la relation technique entre Griezmann et Mbappé a pas sauté aux yeux. C'était mieux le match suivant contre les Pays-Bas. Il y a une interview dans le magazine L'Équipe où on demande à Griezmann ce qu'il pense d'Mbappé. Il dit c'est un bon joueur. Alors on lui dit c'est tout.
Il s'est rattrapé là.
On sent bien quand même qu'il y a une rivalité. Mbappé, quand on lui avait demandé à la fin de la Coupe du Monde quels étaient ses favoris, il y avait pas Griezmann. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça. On sent bien qu'il y a une rivalité sourde, mais
c'est humain ou sportif?
C'est humain déjà, mais je pense qu'elle sera oubliée une fois que le Ballon d'Or sera terminé. Et puis Modric, même s'il est pas bien, il reste le favori, donc ils ne l'auront peut-être pas. Donc ça évitera de se battre et de continuer cette rivalité un peu inutile.
Jean-Marie.
Griezmann en parle bien dans l'interview qu'il donne dans le France Foot d'aujourd'hui. Hashtag France Foot. Mm-hmm.
Tu l'as amené ?
Oui.
Ah bon, très bien, merci.
Annie l'a sur la table aussi. On peut penser qu'il y a rivalité à distance, effectivement. Chacun va essayer d'avancer ses pions en marquant, en illuminant le jeu, etc. Après, je crois vraiment que d'avoir été champion du monde tous ensemble, c'est vraiment des potes. Et il en parle très très bien, elle est bien cette interview. Et donc, je pense vraiment qu'ils seront contents qu'un des leurs soit Ballon d'Or, quoi. Et que si c'est pas un Français, ça les fera chier.
La meilleure réponse, je trouve que c'est, elle se trouve entre Neymar et Mbappé, où tout le monde a passé sa Coupe du Monde à inventer. Déjà des futurs débats, Neymar, la star, va être devancé par Mbappé parce qu'il a fait une meilleure Coupe du Monde, etc.
Je crois
que les joueurs sont pas si idiots que ça, quoi. Ils sont pas si idiots que tous ces observateurs qui s'imaginent déjà des conflits absolument invraisemblables. Ils ont envie de jouer ensemble parce qu'ils sont bons tous les deux.
Ils s'éclatent
ensemble. Et je trouve que c'est une très très belle réponse à ce genre de débats d'arrière-garde qui valent pas grand-chose.
Philippe, deux Africains sur cette liste des 30.
Ça fait pas beaucoup.
C'est pas beaucoup.
Non.
Mais il y en a deux, en tout cas. Et ô combien important, puisque ces deux jouent en plus ensemble à Liverpool. L'Égyptien, meilleur l'année dernière de Première Ligue, Mohamed Salah. Et le Sénégalais, Sadio Mané, c'est 47 buts à eux deux la saison dernière.
Oui, c'était une saison fabuleuse pour les deux, et notamment Mohamed Salah qui est sorti du rang. Mais...
Est-ce que le plus important pour eux, c'est de figurer parmi les 30 ?
Bah, on pourrait,
vous les voyez, vous
pourrait
envoyez un des deux
mieux.
Gagner
non.
Un sur le podium ?
Non, impossible. Pour moi, impossible.
Podium, dit oui, Marie, mais c'est vrai que ça là,
on aura bien un podium final. Oui.
Non, ils seront pas dans les trois. J'en suis persuadé parce que je pense que la Coupe du Monde va être quand même dominante et que malheureusement l'Afrique n'a pas brillé dans cette Coupe du Monde. Et malheureusement, voilà, aujourd'hui, la réalité est là. On loue tout. J'entends beaucoup de louanges sur le football africain. C'est très bien que Salah et Mané aient franchi un cap. Mais malgré tout, si on prend la dernière décennie, j'ai peur qu'on soit pas quand même dans les meilleures années du football africain en ce qui concerne les individualités. Parce que même si Salah et Mané ont brillé, on n'a pas de, à l'heure actuelle, on n'a pas de Drogba et Eto'o pour se rapprocher des toutes premières places, voire même Yaya Touré. J'ai peur qu'on soit, allez, peut-être, admettons que Salah soit peut-être dans les 5 premiers, mais au mieux.
Jean jouait un seul ballon d'or africain de l'histoire depuis 1956, c'était en 1995.
Oui, mais le règlement a changé entre-temps. C'était le premier joueur étranger, je veux dire, France Foot venait de changer ses règlements. Avant, ça ne s'adressait qu'aux clubs européens et aux joueurs européens.
Oui, mais en même temps, Philippe dit il ne se rapproche pas, Salah et Mané, pour l'instant, de Drogba ou d'Eto'o, et eux-mêmes ne l'ont pas reçu, ce ballon d'or de France Football.
Non, mais même côté français, je le disais, depuis 1998, le ballon d'or, donc le dernier ballon d'or français de Zidane, seulement 3 Français sur le podium. En 20 ans, seulement 3 Français ont réussi à se hisser dans le top 3.
Griezmann a fait
3ème. Thierry Henry,
Griezmann a fait 3ème. Griezmann fait 3ème du ballon d'or.
Alors 4.
En 2016.
Il y avait beaucoup de Français aussi.
En fait, 3 en dehors de Zidane.
Justement,
merci Olivier pour la stat est géniale.
Encore un petit mot sur les Français.
Oui, il l'avait eu.
Encore un petit mot sur les Français, c'est Kylian Mbappé. Il n'a que 19 ans et c'est déjà la deuxième fois qu'il est dans la liste parmi les 30 joueurs potentiellement récompensés. Et en plus, alors là, vous dites que les règles ont changé, mais cette année, vous avez aussi créé quelque chose du côté de France Football.
Et ce n'est pas pour Mbappé qu'on l'a créé, je le dis à ceux qui, déjà sur les réseaux sociaux, sont en train d'assassiner France Football.
Tout le monde
Football.
Dit ça. Ouais. Ouais. Donc il y a deux autres prix pour les filles, où il y a notamment 3 Françaises.
Ça, c'est pas pour...
Cette joueuse de l'Olympique lyonnais.
Exactement.
Mbappé 15. Est candidat ou pas pour les filles ?
Non. Alors, non. Mbappé n'est pas candidat, mais
par contre,
il y a un trophée Copa et qui est réservé aux jeunes joueurs qui ont moins de 21 ans. La question est-ce que Kylian Mbappé pourrait gagner les deux ? Ah bah, Dominique.
Ah, c'est sûr.
Déjà, il a le droit.
Parce que
le règlement le permet.
Il y a une petite précision à faire. Excusez-moi, parce que ce qui pourrait expliquer qu'il puisse gagner les deux, c'est que le trophée Coppa, ce ne sont que des anciens ballons d'or qui votent. Oui. Des ballons d'or encore vivants. Ils sont encore 33. Donc, ouais, il y a 33 votants qui vont élire ce meilleur
ils
joueur.
Sont pas les mêmes.
Ils sont 10, il y a deux Français dedans. Donc, il peut gagner les deux, parce que c'est pas le même corps effectif.
C'est pas le même, c'est pas le même collège de votants. Ouais. Il y a déjà donc il y a 10 présélectionnés dont deux Français Mbappé et Houssein Aouar,
Justin Kluivert aussi, Donnarumma,
il y a un Malien,
gardien italien
Amadou Aïdara qu'on avait découvert en Europa League la saison dernière en Ligue Europa
il
avec
a fini 7e l'année dernière Mbappé après sa saison en demi-finale de la Ligue des Champions avec Monaco et le titre de champion avec Monaco. C'est ça que ça récompensait, 7e cette année en étant champion de France et champion du monde. On peut imaginer qu'il sera beaucoup plus haut, mais premier, ça me paraît peut-être un peu tôt parce que le quadruplé en Ligue 1 contre Lyon, c'est moins fort que un triplé en Ligue des Champions, par exemple.
Contre Naples.
Annie disait, c'est la deuxième fois déjà à 19 ans. Annie, je pense que dans 13-14 ans, juste avant notre retraite, quand nous serons ici, on dira, c'est la 14e fois qu'il est nommé. On espère qu'il va finir par l'avoir. Ou alors, il l'aura peut-être déjà eu 3 fois. Ah, je pense qu'il est parti pour être nommé quand même pendant des années et des années.
S'il fait déjà, je crée la polémique, volontairement, bien sûr.
Non.
S'il fait déjà, comme Benzema, qui est là pour la 8e fois dans les 30 premiers... C'est déjà une carrière respectable.
Ah, c'est bien. Ouais.
C'est respectable déjà.
Mm-hmm. C'est la carrière de Benzema est éminemment respectable.
Il y en a qui seront jamais
la carrière. Il y a le
elle n'est pas respectée, mais elle est respectable.
Mais d'ailleurs, Mbappé fascine par ses gestes. Et c'est vrai que si nous, on l'avait vu en championnat de France avec Monaco, quand il a commencé à vraiment apparaître devant les caméras et surtout devant des yeux de supporters épatés, eh bien, Kylian Mbappé suscite aussi de l'admiration, on va dire, loin de la France. Écoutez ces quelques notes, c'est un rappeur bulgare. Moi champion, Kylian Mbappé, néo vive comme Kylian Mbappé, toujours fin avec Kylian Mbappé, presque comme Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, Kylian Mbappé, wesh, wesh, Kylian Mbappé. Moi champion, Kylian Mbappé, néo vive comme Kylian Mbappé, toujours fin avec Kylian Mbappé, presque comme français.
C'est un joueur caricatural.
Je crois que j'ai peut-être un joueur Philippe Bouchet dans le rap. Hein. C'est sympa, compliqué.
Ouais, écoutez,
ça, c'est quand même formidable qu'un Bulgare sache prononcer Mbappé alors que les Français savent pas.
Wesh, wesh, Philippe Bouchet.
Wesh, wesh, Mbappé, comme disent les Français. Donc c'est bien qu'un Bulgare sache le
prononcer. Les paroles, il s'appelle Fire. Je sais pas, je le prononce à l'anglaise, mais c'est Fire peut-être.
Fire.
Je parle pas bulgare, je suis désolée. Il a mis ça en ligne un mois après le titre de champion du monde, c'est-à-dire le 15 août dernier. Et bon, dans son texte, il dit « Jeune champion Kylian Mbappé, insaisissable comme Kylian Mbappé. Il fait tout ce qu'il promet, il pousse fort, il écrase tout. Hein, » Dominique, vous pourrez en parler dans vos chroniques ou le mettre sur votre page. En tout cas, c'est vrai que ce prix intéresse toujours. Avez-vous un favori, Dominique? Si vous votiez, vous voteriez pour qui?
C'est compliqué. Moi, je voterais pour Varane.
Jean-Marie, même si on sait que vous votez pas France Football.
Mbappé.
Dans la Philippe. Tradition, c'est pas idiot, Varane, parce que c'est la vraie tradition de France Foot.
Oui.
Tel que les journalistes votaient avant.
Le palmarès.
Vraiment le palmarès. Le gars qui gagne la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, franchement, il avait aucune chance de pas l'avoir. Aujourd'hui, j'ai des doutes parce que même l'année dernière où c'était les journalistes qui votaient, j'avais été surpris que Messi soit deuxième. J'avais été surpris que Neymar soit troisième. Et je me suis dit, finalement, les journalistes, ils votent comme les entraîneurs et les sélectionneurs parce qu'ils font pareil.
Les temps ont changé. Je pensais à ça avant
l'année
l'émission.
Dernière, ouais. Les temps ont changé, même pour les journalistes.
Tout ce qui vous arrive en rafale, exactement, en permanence, change le comportement des votants.
Et donc, je pense que le prix sera très marketing et Mbappé est en très bonne position dans ce cadre-là.
Allez, Olivier.
Varane ou Modric?
De partager. Oui. Il était à la
Varane
finale,
pour l'histoire, c'est vrai que
première
loge. Attention, moi j'ai voté
les lignes,
pour
voilà,
celui pour lequel j'avais envie de voter.
Mais Modric est un joueur exceptionnel.
Je pense que Modric peut l'avoir. Ouais.
Alors une question, Cristiano Ronaldo a remporté les deux derniers ballons d'or en 2017 et en 2018. Est-ce que, selon vous, il est encore un dangereux concurrent cette année, ou est-ce que l'affaire qui a éclos aux États-Unis ces derniers temps avec les Américains qui ont réouvert une enquête à son sujet pour une plainte, une affaire de viol vieille d'il y a 9 ans, on en a parlé vendredi dans le Café des Sports, est-ce que cette affaire peut retenir certains votes, Dominique?
Ah ben, elle arrive au très très mauvais moment pour Cristiano Ronaldo.
Est-ce que ce sont ses concurrents qui...
Surtout qu'une autre jeune femme apparemment se serait manifestée. Non, mais... Donc l'affaire n'est pas terminée et on pourrait passer de une à deux femmes concernées. Hein.
C'est-à-dire, des joueurs qu'on a cités dans l'émission ne l'ont pas eu pour des coups de boule. Alors pour des accusations de viol, voilà, en plus au moment où le vote a lieu... On peut pas le votant, il va réfléchir à deux fois en se disant bon, il a fait une bicyclette contre la Juventus qui était exceptionnelle, mais il y a aussi cette accusation là qui pèse. Si on lui donne le 3 décembre et que le 4 il est
condamné,
c'est très compliqué.
Enfin,
c'est
en tout
très
cas,
compliqué,
un
je
cas
pense,
procès
pour,
est décidé.
C'est un joueur fantastique, mais c'est très compliqué pour le votant de lui donner sa voix en premier.
Jean-Marie, vous pensez aussi, même si il y a des charges.
Le votant donne 5 noms. Hein.
Ouais, Dominique y a fait allusion. Dans le passé, on a vu des joueurs louper le Ballon d'Or pour des histoires un peu soit des problèmes de coups de boule ou de discipline sur le terrain.
C'était du terrain à l'époque.
C'était du terrain. Ouais. Mais les jurés n'aiment pas ce genre de vagues, ça c'est sûr. En tout cas, dans le temps, les jurés n'aimaient pas les vagues. Aujourd'hui, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont mis une bouée.
Bah, les temps ont changé, comme disait Jean-Marie tout à l'heure. Les temps ont tellement changé que je crains pour Ronaldo, effectivement, que c'est une implication. Je pense qu'il y a 20 ans, ça n'aurait pas fait frémir les
personne
journalistes.
Personne n'aurait su qu'il avait violé quelqu'un.
Oui, déjà, personne ne l'aurait su. Et surtout, il y a 12 ans. Ouais. Mais bon, ne revenons pas là-dessus. Ça ne l'innocente pas pour autant, mais...
Ça peut jouer,
je pense que ça va jouer contre lui.
Mais justement, Cristiano Ronaldo, désormais le Bianconeri, eh bien, on y reste avec ce buteur Bianconeri en prenant la direction de l'Italie.
Mario Mandzukic, Ronaldo! Il raddoppio della Juventus! CR7, Cristiano Ronaldo, un gol strepitoso! 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 Del più forte giocatore del pianeta! 2-0! Ma che gol ha fatto Cristiano!
Et oui, samedi, alors que les commentaires enflaient justement un peu partout dans le monde autour de la star de la Juventus, eh bien Cristiano a inscrit un but assurant la victoire 2-0 de son équipe contre Udinese. Mais l'Italie, alors qui semblait la semaine dernière un petit peu ignorer cette affaire, elle ne faisait pas la une des journaux, eh bien aujourd'hui, elle est partout à la une de la presse italienne. Et c'est ce que va nous confirmer Matteo Cioffi. Bonjour Matteo.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Matteo, est-ce qu'il y a eu comme un revirement, on dirait, de nos confrères italiens, avec un détail peut-être intéressant, c'est que, libéré pour la trêve internationale, et lui ne jouant pas d'ailleurs pour le Portugal, Cristiano n'est pas physiquement en Italie ces jours-ci, ces heures-ci.
Non, je crois pas qu'on n'a pas attendu le départ de Ronaldo pour en parler, absolument pas. Mais c'est vrai que quand même la presse nationale a préféré, dans un premier moment, c'est-à-dire lorsque la nouvelle est sortie il y a une semaine, d'avoir une approche assez mou, sans aller vraiment à fond, une politique diplomatique donc de la part des médias italiens vers le joueur. Oui, tout a changé à partir de hier soir, quand le tabloïd britannique Sun a révélé qu'il y aurait 3 autres femmes prêtes à accuser de viol le portugais. Et de plus, dans cette même affaire, est apparu un nom que aux Italiens a dit beaucoup de choses, c'est-à-dire celui de Karima El Marouk, c'est-à-dire la femme marocaine qui, il y a quelques années, avait créé énormément de problèmes à Silvio Berlusconi, qui aurait eu des rapports sexuels avec elle lorsqu'elle avait seulement 16 ans. Karima, c'est pour vous faire comprendre, c'était la nièce de Moubarak, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. Et donc, pour revenir à Ronaldo, Karima, qui est connu aussi avec le nom de Ruby, aurait eu une liaison avec le joueur en échange de l'argent, et c'est là lorsqu'elle avait seulement 17 ans. Le fait que le nom de Ruby soit donc apparu ce matin dans la presse a fait monter encore plus l'intérêt ici en Italie sur cette affaire qui risque vraiment de déclencher pas mal de bouquins.
Mais justement, Matteo, on se souvient de l'accueil absolument exceptionnel qu'avaient réservé les Italiens à Cristiano Ronaldo. On se souvient de son premier match à l'entraînement, là, en dehors de Turin. On se souvient aussi de cette vente incroyable de maillots. Est-ce que les gens, tout d'un coup, s'intéressent à cette histoire ou sont déçus?
Bah non, tout d'abord, cet accueil avait été fait par les supporters de la Juve, certainement pas par les supporters des autres équipes. Mais c'est vrai que cette histoire risque d'avoir de causer pas mal de dégâts du point de vue économique pour le club. Il faut imaginer que, je disais avant, que dans le mois de août et septembre, on a vendu plus de maillots de Ronaldo par rapport à ceux qui ont été vendus l'année passée, en 2017. Donc, vous pouvez bien imaginer aujourd'hui qu'est-ce que ça pourrait dire acheter un maillot d'un joueur qui est accusé de viol.
Oui. La Juventus de Turin, vendredi dernier, a communiqué en étant solidaire avec son joueur, en disant qu'il est, et en louant son professionnalisme, tout comme l'entraîneur. Est-ce que depuis, la Juventus s'est exprimée?
Non, il faut dire que la Juve a été prise un peu au dépourvu. Pour l'instant, il n'y a pas eu encore une interview publique de la part d'aucun des dirigeants du club. De plus, Beppe Marotta, depuis une semaine, n'est plus l'administrateur délégué de la Juve. Et personne donc ne veut pour l'instant s'exposer sur cette affaire. Vous l'avez dit, le seul message qu'on a lu, c'est sur Twitter. C'est ce message où le club reconnaît que le joueur a fait preuve d'un grand professionnalisme. Et que c'est une affaire qui remonte à 10 ans et cela ne changera pas cette opinion. Un message qui a soulevé pas mal de critiques et pas seulement en Italie.
C'est la trêve internationale, Dominique, messieurs, mais une chose, est-ce que finalement la Serie A qui avait recruté Cristiano et du coup qui attirait de nouveau les regards, on voit que la Juventus, certes, elle a déjà accumulé beaucoup de titres, mais continue à être compétitive et aussi grâce à Cristiano, est-ce qu'elle ne va pas en pâtir la Serie A tout d'un coup?
Déjà la Juventus, c'est un vrai problème pour la Juventus, ils viennent de recruter une star exceptionnelle et
100 millions d'euros.
Et là tout d'un coup il y a cette affaire qui rééclate, c'est très problématique pour la Serie A, je crois pas, mais pour la Juventus c'est un cas très très épineux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ils font des communiqués, ils essayent de soutenir Cristiano Ronaldo parce qu'en plus c'est la méthode à faire avec lui, parce que sinon il peut très vite se fâcher. C'est quasiment insoluble.
Philippe?
C'est la vieille dame, c'est la famille Agnelli, donc c'est pas n'importe quoi pour la Juve, et c'est un vrai problème d'image. Or l'image était quand même si Ronaldo reste très compétitif et reste un très grand joueur, mais l'image a quand même été le moteur numéro un pour cet enrôlement d'un joueur de 34 ans à 100 millions d'euros qui est le plus gros transfert de l'histoire du foot. Parce que 100 millions d'euros sur un joueur de 34 ans, c'est le plus gros transfert de l'histoire du foot, en prenant ses paramètres d'âge, etc. Donc c'était un enrôlement qui évidemment dépassait complètement la valeur du joueur et qui était lié à l'image. Or, justement, c'est sur ce terrain-là que la Juve rencontre un problème. C'est insoluble.
Jean-Marie,
les temps changent, les temps changent, ça va être le leitmotiv. Non, mais je sais bien que je l'ai déjà dit. Il y a la présomption d'innocence. Si Ronaldo a fait ce qu'il a fait, ce sont des choses qui, hélas, devaient se faire il y a pas mal d'années. Et donc
c'est-à-dire de payer pour le silence de la jeune femme.
Dont personne n'entendait jamais parler. Ce qui me tarabuste un peu, c'est que ce soit le Sun qui sorte des noms, alors que le Sun est le premier à payer des femmes pour arriver à attraper ces pauvres niais de joueurs dans les pubs. Je ne veux pas citer de nom, mais on en connaît. Donc c'est un peu jugé parti, tout ça. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est assez ignoble quand même comme procédé.
Matteo, pour terminer, la presse justement craint-elle en Italie cette mauvaise ombre de Cristiano et sur le championnat? Parce que pendant ce temps, on a vu Naples gagner, l'Inter gagner et finalement être sur le podium juste derrière la Juve.
Je voudrais pas être méchant, mais la Juve sans Ronaldo peut rouvrir la course au titre. Donc, si on doit juger du point de vue sportif, non. Non, mais je rigole, bien entendu. C'est vrai que la presse se demande est-ce que cette histoire peut vraiment abîmer l'image d'un club glorieux avec une énorme histoire comme celui de la Juve. Est-ce que la Juve peut vraiment payer des conséquences aussi du point de vue moral de cette affaire. À mon avis, la Juve, si on reste sur le plan sportif, peut gagner ce titre même sans Cristiano Ronaldo. On a vu les effectifs, c'est une équipe sublime pour l'instant. Donc je ne crois pas, non, pour ce qui concerne votre question, Annie, non, je ne crois pas que la Serie A doit payer pour une histoire honnêtement privée qui concerne un seul joueur. C'est vrai, c'est pas un joueur quiconque, mais c'est quand même un seul joueur.
Merci beaucoup, Matteo, d'avoir été en ligne d'Italie avec nous et on continuera bien à suivre, nous, la Serie A. Et l'Espagne avec, bah là encore, hein, l'ombre de Cristiano Ronaldo, mais l'ombre surtout sur la Liga et l'ombre du buteur cette fois. Car depuis son départ, eh bien son ancienne maison, le Real Madrid, a bien du mal à retrouver le chemin de la victoire. Alors son premier match de la saison au Real, on s'en souvient, hein, c'était une défaite en Supercoupe d'Espagne face à l'Atlético. Et depuis, eh bien les Merengues avancent en dents de scie, on va dire, en zigzagant un peu même. Et sur les derniers matchs, pas de victoire, il y a même deux défaites. Fait une à Moscou et puis une à Alavés. Et surtout, alors Dominique, on les compare, certains de nos confrères osent comparer le Real Madrid à Dijon. Parce que
Diron,
oui, Diron, il faut dire à Dijon parce que le Real est
dans les Asturies.
La dernière fois qu'ils ont marqué le Real, c'était Asensio face à l'Espagnol, c'était le 22 septembre. Depuis, 409 minutes sans but, et Dijon, c'est 437 minutes sans but. C'est beaucoup de temps en tout cas. Est-ce que le Real Madrid, on se souvient à la fin du mercato, disait de toute façon le Real joue aussi bien avec que sans Ronaldo.
Ben voilà, c'est un rapport avec ce qu'on vient de dire, c'est qu'il manque Cristiano Ronaldo, donc il manque quelqu'un qui vous met 50 buts par saison. Et l'idée n'a été ils ont essayé de pas le remplacer cet été par Hazard, par exemple, en se disant, vu le prix des transferts aujourd'hui, c'est à peu près 200 millions d'euros, Hazard, en se disant que cet argent-là, ils en auraient besoin pour acheter Neymar et Mbappé, qui selon eux sont les deux seuls joueurs capables de remplacer sur la durée Neymar, Cristiano Ronaldo. Donc aujourd'hui, ils doivent peut-être s'en mordre les doigts parce que Hazard ferait un bien fou au Real Madrid. Mais en même temps, on peut comprendre leur stratégie, mais voilà, elle est pas payante et ils vont avoir beaucoup beaucoup de difficultés parce que Asensio marque pas beaucoup, il joue pas beaucoup. Isco, il est moins buteur.
Ils ont aussi beaucoup de blessés.
Bale, il est tout le temps blessé, et Karim Benzema.
Bale et Benzema maintenant aussi.
On sait bien qu'il fait jamais de la saison à plus de 20 buts, donc c'est très compliqué là encore une fois. Lopetegui en plus, il est plus sur un jeu de possession qui, à mon avis, correspond pas à la culture récente du Madrid avec Ancelotti, Zidane. Donc à mon avis, ils sont aussi dans une impasse.
Jean-Marie?
Zidane a bien fait de partir, semble-t-il. En même temps, bon, le Real n'est jamais qu'à 2 points, je crois, du leader. Enfin, ils sont pas très très loin.
Alors oui, effectivement, ils sont quatrième. Il y a que deux points. Mais c'est la série qu'ils offrent et le visage qu'ils offrent.
La série sent un peu la fin de règne ou le début d'un nouveau règne qui commence pas bien. Plutôt, moi, je veux laisser un peu de temps à Lopetegui, effectivement, pour prendre la mesure des joueurs qu'il a sous la main, peut-être les faire jouer autrement, retrouver effectivement un peu plus le jeu de contre-attaque qui était la marque de fabrique de ses prédécesseurs, exact.
Justement, Julen Lopetegui, écoutons-le, parce qu'il connaît la règle du milieu, et il sait bien que on discute déjà de savoir s'il est bien là où il est, c'est-à-dire à la tête de cette équipe.
Tous les entraîneurs vivent avec la possibilité de se faire licencier, mais ils n'y pensent pas. On est en octobre, on est dans une spirale négative, mais dans le pire des cas, nous ne serons qu'à 3 points de la tête. C'est la seule chose positive dans notre mauvaise passe. La saison vient juste de démarrer. On doit récupérer des joueurs blessés. Quand on regarde le 11 face à la Roma, par exemple, c'est le plus important. On doit s'améliorer dans l'énergie qu'on met et dans la patience. La patience vient avec les bons résultats. Les bons résultats, eux, viennent en marquant des buts. On va essayer essayer encore. On a bien débuté aujourd'hui, cela nous avait manqué, mais nous n'avons pas marqué. On a pourtant eu des situations. Ensuite, on a les blessures de Karim et de Gareth qui nous font mal. Et au final, on reçoit la sanction avec ce but tardif. Quand tout va mal, c'est souvent ce qui se passe.
Est-ce que tout est de la faute de Lopetegui, Philippe Doucet, ou est-ce que finalement il joue aussi de malchance, effectivement, avec pas mal de blessés et puis une succession à prendre qui est celle de Zidane?
Bah, c'est compliqué pour lui parce qu'il se retrouve avec une polémique sur son départ de l'équipe d'Espagnol juste avant la Coupe du Monde, et il se retrouve avec une polémique.
On se souvient des circonstances quand il est nommé.
Ouais, il se retrouve avec une polémique sur ce début de saison du Real qui, pourtant, est exactement le même que l'année dernière. L'année dernière, Zidane était en échec total. Exactement. Ronaldo ne mettait pas un pied devant l'autre. Il était nullissime. Il marquait pas un but. Et pour autant, tout le monde est là à dire aujourd'hui « Ah, mais c'est pas possible, sans Ronaldo, on n'y arrivera pas, etc. » Alors que tous les débats l'année dernière, c'était « Mais comment on peut faire jouer encore Ronaldo? Il est mort, il n'y arrive pas, c'est pas possible. » Moi, ce monde du football me fait rire, éclater de rire. Tous ces commentaires me font rire.
Donc,
bien sûr qu'à un moment, le Real va arriver. Non, mais le Real va arriver à un bout. Le Real va arriver à un bout. Au bout d'un moment, évidemment, ils vont pas gagner la Ligue des Champions tous les ans. Mais l'année dernière, c'était exactement le même débat. Tout le monde pensait totalement improbable que le Real revienne dans la saison. Et à partir de janvier, tout d'un coup, ça a commencé.
Le Real n'est jamais revenu. À part en Ligue des Champions, le Real n'est jamais revenu.
Non, mais ils se sont concentrés sur la Ligue des Champions et ils ont été capables de la gagner. Donc voilà, ça veut pas dire qu'ils vont la gagner cette année. Mais ils étaient déjà à la limite l'an dernier, voilà la réalité. Et il n'avait déjà pas remplacé certains joueurs, et c'était déjà, on se disait que c'était limite, et voilà, et ils ne sont, je pense que l'effectif de l'année dernière n'était déjà pas capable de faire une saison complète. Celui de cette année, moins Ronaldo, est évidemment pas capable non plus de faire une saison complète. Alors seront-ils capables de faire, comme Zidane a su le faire, juste un bout de saison, le bon pour faire la différence, on verra.
Bon, 4 clubs en Ligue des Champions, ça veut dire qu'ils peuvent à la limite terminer 4e, mais est-ce que le Real peut se contenter, Dominique, de terminer en Liga 4e?
Ah ben non, mais même si Philippe a raison, l'érosion a commencé la saison passée, il y a véritablement un problème, parce que remplacer des joueurs, je vois pas, Varane a remplacé Pepe, mais c'était Sergio Ramos reste extraordinaire, Marcelo est un fantastique arrière-gauche, le meilleur au monde. Thibaut Courtois est pas moins fort que qu'Keylor Navas. Karim Benzema, 8 participations au 30 du Ballon d'Or. Remplacer des joueurs, je veux bien, mais qui? Parce que ils ont un effectif Casemiro, c'est extraordinaire comme sentinelle.
Donc ça va revenir.
Mais Dominique, on est exactement au même débat que l'année dernière, où tout le monde disait « Ah, mais quand même, Zidane a eu tort,
non, mais le
il
problème,
aurait dû renouveler, pas forcément
c'est
la qualité des valeurs, la valeur des joueurs n'est pas en cause, mais à l'époque, on disait « Zidane aurait dû renouveler quand même un peu de 109, aurait fait bien. »
Non, mais l'idée, Philippe, c'est comprendre pourquoi il y a ce moins bien en ce moment. Est-ce que c'est dans... Alors, Dominique disait que c'est peut-être dans le style de jeu inculqué par Lopetegui, c'est peut-être par des stars qui arrivent fatiguées d'une Coupe du Monde.
Lopetegui est un très bon entraîneur. Après, il peut ne pas convenir. Benitez est un remarquable entraîneur. Et ça n'a pas marché du tout au Real. Pendant les 6 premiers mois, ont été très difficiles.
Le numéro 7 du Real, c'est l'ancien Lyonnais.
Marcelo.
Diaz. Oui.
Marcelo Diaz.
Mariano. Voilà. C'est pour ça que j'avais dit Mariano Diaz. Alors, évidemment,
Marcelo aussi est blessé.
Il porte le numéro 7. Il devrait porter un autre numéro. Ça, c'est sûr. Je lui conseillerais volontiers de changer de numéro. Non, tout ça pour dire que l'ombre et l'empreinte laissée par Ronaldo est quand même absolument démente, quoi.
Et le problème de Lopetegui, c'est ça. C'est que le Real n'est pas moins bon que l'année dernière. L'année dernière, c'était du même niveau, le début de saison. Je crois même qu'ils étaient en dessous. Je pense que c'était pire l'année dernière. Mais la seule chose, c'est que tout le monde va leur dire Ronaldo, fallait le remplacer, fallait mettre.
Oui, on l'a remplacé par Mariano Diaz.
Mais les gens, aujourd'hui, les temps changent, comme disait Jean-Marie. Aujourd'hui, les gens disent, mais mettez 300 millions, quel est le problème? Achetez un attaquant 300 millions, 400, 500, quel est le problème? Pourquoi vous le faites pas? Vous êtes stupide.
Philippe,
voyons.
Il y a des statistiques sur
ta rage permanente.
Sur la Cristiano-dépendance et qui montrent que pratiquement depuis 2009 jusqu'en 2018, Cristiano Ronaldo a inscrit entre 34 et 42%, du total des buts d'une équipe.
Le jeu était orienté sur Ronaldo. Alors,
le Barça, on a l'impression que finalement, le Real va pas très bien. Le Barça est un peu devant eux, mais pareil, pas beaucoup plus de points. On entend surtout du côté de l'Espagne, Jean-Marie, que...
Ils sont jamais contents. Oui.
Oui, mais que... Non, mais que le Barça aurait aussi perdu, et ce qui mécontenterait un peu ses plus fervents supporters, son style. qui serait, ça, il serait moins lisible que, dépend, évidemment, du temps de Pep Guardiola.
Ça dépend jusqu'à quand on remonte, effectivement. C'est sûr que c'est plus la machine à jouer collectif de Guardiola. En même temps, c'est vrai que pendant ce temps-là, le foot a un peu changé, les temps. Le foot change, on s'aperçoit que la possession de balle maintenant ne fait plus recette, et donc peut-être que le Barça est en train d'apprendre à ses dépens qu'il va falloir changer un tout petit peu de façon de faire. Mais là c'est pareil, Messi reste Messi, je suis pas terriblement inquiet pour eux. C'est vrai que ça n'est quand même plus la démonstration infernale et permanente du temps de Guardiola.
Philippe, vous qui les avez vus à Valence,
ouais,
ce week-end.
Je crois que ce qui a changé, alors leur football n'a pas changé du tout. Ils ont eu 76% de possession à Valence, qui joue la Ligue des Champions. Excusez-moi, même le PSG le fait pas à Marseille. Hein. Ça reste leur ADN, leur football reste le même. Plusieurs choses ont changé. La première chose, c'est qu'ils sont, la dépendance à Messi est paradoxalement, alors qu'il a 31 ans, est en augmentation permanente. C'est-à-dire que Valverde n'utilise pas de troisième attaquant, donc il n'y a que deux attaquants, que l'autre attaquant, Suarez, est hors de forme et pas très bon depuis le début de la saison.
Non, et d'ailleurs, donc, il part pas rejoindre sa sélection. Hein,
il y a Messi et que Messi. Messi n'a pas touché un ballon pendant un quart d'heure à Valence. Le Barça était ridicule, mais ridicule pendant 15 minutes. Une fois que Messi est rentré en jeu, le Barça était totalement dominateur. Et Messi, sur une action, a fait une action d'une classe hallucinante, extraordinaire, qui a abouti au but. Et tout, tout le reste du match, le Barça était dépendant uniquement de Messi. Même si le collectif, globalement, était là, la seule accélération possible venait de Messi. Alors évidemment, c'est plus prévisible. Évidemment, il y a trois adversaires sur lui. Évidemment, changer de jeu. Comment voulez-vous que le Barça change de jeu? À partir du moment où le Barça
juste
est sur le terrain, l'adversaire se met à 25 mètres de son but. Il fait comme toutes les équipes ont fait à la Coupe du Monde. Ils se mettent à 25 mètres de leur but et ils laissent le Barça jouer. Comment voulez-vous que le Barça fasse autrement? Vous voulez qu'il fasse des centres pour que Suarez ou Messi mettent une tête? Nonsense. Ça n'arrivera jamais.
Dominique, alors du coup, ni le Real ni le Barça sont premiers de la Liga, c'est le FC Séville. Le FC Séville, premier, on s'attendait plutôt à Valence, justement, cette saison qui a, pour l'instant, pas très bien débuté.
Ils sont loin,
ouais, cette Liga, pas mal de problèmes. Par contre, il y a un Français, notamment, qui aide le FC Séville et qui marque des buts, c'est Ben Yedder, qu'on avait vu l'année dernière à Manchester, marquer ce but incroyable qui avait éliminé Manchester de la Ligue des Champions.
C'est l'effet Gonzo, qu'ils ont prêté à Amiens. non, je sais pas, c'est Wissam Ben Yedder, il y a toujours eu des doutes sur ses aptitudes au plus haut niveau. Même en équipe de France, il a une carrière très contrariée. Il était un petit peu venu avant la Coupe du Monde et puis il a disparu justement juste après ce coup d'éclat à Manchester. C'est un joueur qui vient du futsal. Est-ce qu'il a vraiment l'apanage du très haut niveau pour maintenir Séville tout en haut de l'affiche? Je pense quand même que Séville profite du fait que les deux autres sont encore en réglage.
Jean-Marie.
Ouais, moi quand je vois un club qui revient, qui retrouve de son lustre, je regarde tout de suite qui est l'entraîneur. Et l'entraîneur du FC Séville, c'est Pablo Machin. Alors je le prononce Pablo Machin parce que ça me fait plaisir. Mais ce Pablo Machin a été élu meilleur entraîneur de la L2 avec Numancia, et après il a fait des prouesses avec Gerona l'année suivante, et visiblement
Gerona,
oui.
Non, c'est des Catalans,
on se rend pour bientôt, et donc il les fait jouer en 3-5-2. Ça a l'air d'être un sacré loustique, un mec très jeune qui a 43 ans, et c'est vraiment très intéressant ce qu'il fait au FC Séville.
Oui, parce que le FC Séville, depuis que Sampaoli était parti là prendre la sélection argentine, pendant un moment il y avait eu un coup de moins bien,
ils ont fait quoi l'année dernière, 6e je crois,
ils étaient un peu à la peine avec leur entraîneur italien,
ils étaient un peu en dessous, mais bon, malheureusement malgré tout, ça va être quand même très difficile. Real, Barça, Atlético, être devant ces trois clubs là paraît assez improbable cette année. À la fin,
un top 4 en tout cas pour l'instant. C'est la fin de ce Radio Foot. Merci beaucoup, messieurs, d'y avoir participé. Merci aussi à David Finzel qui m'a aidé à préparer l'émission. Laurent Salerno était à la réalisation aujourd'hui. Et on se dit, à demain.